Bonjour à tous, fidèles auditeurs. Vous êtes bien sur Graphite 94.9. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des Échos de l'innovation. Une émission dans laquelle on s'interroge sur les interactions entre science, technologie et société. Sur le plateau, on est actuellement 8 étudiants de l'Université de technologie de Compiègne, âgés entre 18 et 25 ans. On est ensemble pour une heure. J'ai en face de moi Clément, Léa, Can, Daniel, Mohamed, Quentin, Simon et forcément moi-même Thibaut. Et si on pouvait élire notre président de la République en votant depuis notre smartphone ? Ça paraît finalement pas très révolutionnaire. C'est presque même la suite logique des choses dans nos démocraties de plus en plus envahies par le numérique. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va s'interroger sur l'introduction des technologies dans les processus démocratiques, tels que la forge de l'opinion et le vote. Je laisse la parole à Clément pour la suite.
Vous êtes peut-être actuellement en train d'écouter cette émission via votre smartphone, ou vous êtes peut-être aussi sur votre smartphone en ce moment même. En effet, celui-ci nous est utile absolument tout le temps, et il nous sert plus seulement à communiquer. On peut par exemple jouer, faire des transactions bancaires, et même travailler sur son téléphone. Mais serait-il possible de voter grâce à son téléphone ? Cette question, elle nous semble particulièrement intéressante, connaissant aujourd'hui la démultiplication des utilités que peut avoir notre smartphone, et d'autant plus que nous sommes en période électorale, avec, rappelons-le, les élections présidentielles qui auront lieu les 10 et 24 avril prochains. Il est vrai qu'aujourd'hui, le rôle du numérique est de plus en plus présent dans notre vie, avec de plus en plus de personnes connectées via les réseaux, et donc, de manière logique, le numérique est aussi de plus en plus important dans la vie politique. Et cela, ça s'illustre très bien avec tous les candidats, par exemple, qui vont ouvrir et alimenter des comptes sur les réseaux sociaux comme YouTube, Instagram ou plus récemment TikTok, et où ils vont poster des vidéos d'eux montrant leur vie quotidienne d'hommes ou de femmes politiques, exprimant leurs opinions, où on peut également retrouver des brefs passages de meetings. Le deuxième plus gros enjeu de la politique aujourd'hui, il est de lutter face à l'abstention, qui augmente et qui est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans les démocraties occidentales aujourd'hui. Et si on s'intéresse plus particulièrement à la France, par exemple, on va voir que l'abstention, elle diffère selon les catégories sociales, mais également aussi selon le type de scrutin. Et on peut avoir une abstention qui va de 20% pour les élections présidentielles, donc les élections où les Français votent le plus, à 50% pour toutes les élections comme les départementales, législatives, régionales, mais aussi européennes. On voit donc que l'abstention devient un des grands enjeux de la politique actuelle, car de plus en plus de personnes n'expriment plus leur opinion via les urnes. Ainsi, à l'heure du numérique où tout bouge et de manière rapide, les systèmes démocratiques sont perçus comme inefficaces. Et nous allons donc aujourd'hui nous interroger dans cette émission sur le rôle des technologies du numérique dans la démocratie et au niveau de la politique. Pour ce faire, nous allons aborder trois points. Tout d'abord, nous verrons que le numérique, il augmente considérablement le flux d'informations. Et nous verrons donc comment est-il possible de se forger une opinion politique dans ce monde du numérique. Toutefois, l'augmentation de cette quantité d'informations, elle n'est pas forcément bénéfique pour autant. Et on va se retrouver face au risque d'être noyé devant tant d'informations, à tel point qu'on ne saura plus l'analyser et la traiter. Et de plus, il y a également le risque dans cette course à la formation, il y a toujours plus d'informations, il y a aussi le risque d'en altérer la qualité. Et le problème, c'est qu'on pourrait alors se sentir mal informé, et il y aurait un risque de perte de confiance de l'électeur vis-à-vis des informations qu'il reçoit. Et cette perte de confiance, elle va pouvoir mener à l'abstention, qui sera le thème de notre deuxième partie. Enfin, serait-il possible de se tourner également vers le numérique au moment d'exprimer son opinion ? Et c'est ainsi que nous allons aborder dans la dernière partie le sujet du vote numérique.
À travers la discussion aujourd'hui, comme Clément avait dit avant, tout d'abord, on va parler des informations via les médias. En effet, vivons dans une démocratie. Cela nous permet de parler et de partager des informations de façon libre. Dans l'ère numérique aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'accéder aux informations ou connexions sur l'Internet. C'est pour ça qu'il apparaît beaucoup de questions concernant les réseaux sociaux, les moyens de communication. Tout d'abord, la question la plus importante, c'est souvent comment se forger une opinion dans une démocratie numérique, comment un individu est capable de mettre la capacité de jugement dans une société où l'information est riche. De plus, ils sont beaucoup utilisés comme un outil de propagation d'une idée, que cela soit par les particuliers, les autorités et le gouvernement. En étant des outils de propagation, la question de la neutralité peut apparaître. Les idées émises ne sont souvent pas objectives, car elles dépendent d'un point de vue. Dès lors, quelle est-il de l'objectivité de l'information? La neutralité et l'objectivité sur l'Internet, c'est une illusion. Croyons que nous avons accès à toutes les informations de manière égale. Pour tout le monde, sur l'actualité, la faire partie quotidien, la plupart d'entre nous le faisons via Internet et les réseaux sociaux. Mais si les gens s'intéressent à l'information, ils ne vérifient pas toujours les provenances des images ou des articles qu'ils lisent. C'est-à-dire que souvent, pour eux, sur une vidéo, une image ou un même site, c'est finalement le nombre de vues qui valide l'information. Et finalement, la fiabilité de l'information est liée à la personne qui partage. C'est-à-dire que si mon ami m'a partagé une information, alors cette information est vraie. À l'arrivée, il ne se pose forcément la question de source. D'où vient l'information? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est succès? Est-ce que j'ai identifié le site qui partage cette information? Sur Internet, on ne sait pas qui fait quoi. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Cela rend encore plus pratique pour les fausses nouvelles. Le fake news se propage rapidement. Par exemple, pendant l'épidémie et la propagation rapide de COVID-19 l'année dernière, il y a beaucoup de personnes ont répandu des rumeurs selon lesquelles il ne s'agissait de la grippe ou que le vaccin sera mortel. Et quelle est la vérité? Vous ne savez sûrement tout. Il existe de nombreuses formes de fausses nouvelles. Plus anodines mais trompeuses, souvent utilisées pour la santé entre les membres de famille ou les amis proches. Titres controversés attirant de nombreux téléspectateurs afin d'augmenter l'interaction et la popularité de l'affiche. Cette méthode est souvent utilisée par les marques ou certains articles pour augmenter le nombre de visiteurs venus aux entreprises concurrentes. Et enfin, c'est un citant propageant de fausses informations visant à diviser, saboter, mécontenter une idéologie, un individu, un entreprise ou même un pays. Et les fausses informations sont une des préoccupations principales des jeunes. Ils se méfient des informations de raison sur Internet, notamment si elles concernent la politique. Il faut beaucoup investir pour la propagation, développer une capacité d'analyse et vérification de la véracité des informations importantes. Cependant, il est très difficile de contrôler ce problème. Sa son influence est énorme, mais peu de gens sont conscients. Quand partie pour contrôler les médias, Internet, pour contrôler les destins en pays. Comme j'ai déjà dit, les gens croient que qu'ils lisent. Les informations qui ont les nombreux points de vue sont la vérité sans savoir si les informations sont faux ou vraies. C'est le fait de la marionnette entre les mains des marchands, créant des conflits entre le même d'un argent résident un pays. Plus sérieusement, lorsque les milliards seront chaboussants, les faits historiques seront modifiés dans le sens qui voulons. Mais comment sommes-nous si facilement manipulés par les médias? Qu'est-ce que tu penses, Léa?
Merci beaucoup, Ken. Alors, face aux propos de Ken, on peut dire que cette propagation des fausses informations et cette incapacité de pouvoir différencier le vrai du faux met en avant, bien évidemment, le rôle de la manipulation des médias. Toutes les informations qui circulent sont à vérifier, qu'elles soient d'origine véridique ou non. Cependant, la multitude de ces informations et la vitesse à laquelle elles peuvent se diffuser à travers nos réseaux rend nos jugements beaucoup plus vulnérables. D'autant plus que cette manipulation des médias est enrichie par deux nouveaux phénomènes qui sont nommés le phénomène de chambre écho et de bulle de filtre que je vais essayer de développer dans cette rubrique. En effet, chaque recherche, chaque événement perçu est filtré par un algorithme qui condense et associe tous les liens en rapport avec nos dernières recherches pour nous inciter à aller les regarder davantage. Autrement dit, si nos recherches tournent autour d'une fake news, l'ensemble de nos cookies et de nos influences Internet se concentrent davantage sur cette fausse idée. De manière plus générale, d'après ce que nous lisons, ce que nous aimons, ce que nous commentons, bref, d'après notre comportement numérique, les algorithmes nous proposent toujours le contenu qui s'en approche le plus possible et par conséquent, les gens manquent cruellement de perspectives diverses, ils manquent en effet de diversité. Pour définir de manière plus simple ce phénomène de bulle de filtre, ou de notions de chambre écho qui sont légèrement différentes mais qui peuvent en effet se regrouper, on peut dire que ces notions décrivent une situation où certaines idées, croyances ou points de vue, sont renforcées par la répétition d'un système fermé qui ne permet pas la libre circulation d'idées ou de concepts alternatifs ou concurrents. Dans un phénomène de chambre écho, par exemple, il y a l'implication que certaines idées ou certains résultats l'emportent en raison d'une injustice inhérente à la façon dont les contributions sont recueillies. Mais comment ce phénomène est utilisé de manière plus concrète et quelles en sont les conséquences? En effet, je peux vous citer plusieurs exemples. Premièrement, une personne qui ne croirait pas au changement climatique, un phénomène dont on entend beaucoup parler en ce moment, ne suivrait que sur son compte Twitter, par exemple, des médias ou des personnalités publiques qui ne croiraient pas non plus à cette idée, confirmant ainsi son opinion. Ainsi, à force de lire et d'entendre des climato-sceptiques, cette personne en vient à croire qu'une majorité de la population est de son avis, ce qui le pousse à rejeter plus promptement les opinions divergentes comme étant marginales et dès lors peu conséquentes. Pour donner un autre exemple plus récent, avec la guerre en Ukraine, on a vu que la Russie et le gouvernement russe ont pris possession des nombreux réseaux sociaux qui circulent, et notamment Facebook et Twitter, qui regroupaient plus de 53 millions de Russes. À travers cette plateforme, les différentes personnes constituant la population russe pouvaient ainsi s'informer sur la guerre en Ukraine. Et afin d'éviter toute propagation de fausses fake news ou alors d'éviter de montrer la vérité, le gouvernement russe a décidé de fermer ses plateformes, prouvant ainsi que le gouvernement russe essaye d'enfermer les populations dans ce phénomène de chambre écho pour n'avoir qu'un avis défini et pas une diversité d'avis. De manière plus générale, on voit bien que dans la plupart des démocraties, et particulièrement en France, ces pays laissent l'accessibilité aux informations pour respecter la liberté d'expression et la liberté de renseignement. Pardon. Cependant, laisser accès à toute idéologie met parfois en avant des idées pouvant être considérées comme fausses, ainsi considérées comme fake news, et empêchant le développement de l'esprit critique et de cet esprit de pouvoir différencier la véracité de la non-véracité. Les conséquences sont très nombreuses sur la population. En effet, ces phénomènes permettent la montée d'une polarisation des idées politiques de la part des individus due au manque d'exposition à des points de vue plus divergents, ce qui entraîne une perte du regard critique ainsi qu'une dégradation de la qualité et de la diversité des discours. On observe aussi l'existence d'un lien très causal entre l'usage des médias sociaux à des fins informationnelles et la radicalisation des idées politiques. Cependant, au-delà de ces phénomènes qui touchent une grande partie de la population, les réseaux sont également utilisés par les gouvernements afin de forger une image publique forte et de les utiliser comme étant des réseaux de publicité. On peut voir par exemple que pendant l'élection présidentielle aux États-Unis, Donald Trump a utilisé Twitter pour publier plus de 50 à 60 000 publicités en rapport avec son idéologie. Ainsi, je vais laisser la parole à Quentin, afin de nous parler du rôle des médias dans la démocratie française.
Merci Léa pour toutes tes informations, j'ai trouvé ça très complet. Je vais peut-être complémenter un peu ce que tu as dit au sujet notamment de cette chambre d'écho qui est très juste. Si vous utilisez vous aussi les réseaux sociaux, ce qui est probablement le cas, vous êtes peut-être déjà confronté au phénomène. Il faut savoir que les réseaux sociaux, surtout en période d'élection, sont un endroit extrêmement favorable au militantisme politique et la diffusion de nos idées. Depuis cela, plusieurs décennies, maintenant, on ne compte plus à 100% sur les médias traditionnels, en particulier les jeunes générations. Et du coup, les réseaux sociaux sont devenus eux aussi des outils extrêmement forts hein, pour la diffusion des idées. Il faut voir par exemple le compte du président de la République actuel, M. Emmanuel Macron, qui est à 8 millions d'abonnés sur Twitter. Les autres candidats politiques sont aussi à plusieurs millions d'abonnés, que ce soit aussi sur YouTube, Facebook ou bien TikTok. Donc c'est quelque chose d'assez répandu. Ce que je voulais compléter par rapport à ce que tu as dit, notamment avec l'actualité de la guerre en Ukraine, oui, c'est vrai que les Russes ont censuré bon nombre, ont filtré et fermé, entre guillemets, leur espace numérique afin d'avoir un total contrôle sur les informations qui circulaient. Mais après, en Occident, nous sommes aussi dans la censure, puisque vous êtes sûrement au courant, mais des médias russes, ou en tout cas affiliés au pouvoir russe, tels que RT France, ont été interdits maintenant de diffusion. Donc ça pose des questions, c'est intéressant, même si on n'est pas là pour y répondre de manière ferme, on permet au moins d'y réfléchir. Est-ce que c'est vraiment légitime de revendiquer une liberté d'expression, en tout cas de se prendre comme défenseur de la liberté d'expression, si nous derrière nous censurons des médias? Alors est-ce que la fin justifie les moyens? Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, les chambres d'écho sont très influentes et que c'est vrai que, à cause de ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes pensent que la majorité est d'accord avec leurs idées, surtout les extrêmes en particulier. On a entendu plein de fois que c'était le ressenti de tous les Français, que tout le monde pensait comme ça, etc. Il est très difficile de sortir de cette chambre d'écho puisque peu de gens s'intéressent vraiment aux idées contraires. Généralement, il est beaucoup plus confortable intellectuellement de se conforter dans nos propres idées, de lire ce qui nous rassure. Et du coup, bah bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la solution. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux informer, pour surtout en période d'élection, pour permettre aux gens de voter, pas pour ce qu'ils pensent croire, mais d'une idée qu'ils ont vraiment réfléchi, qui a mûri. Eh bien, il y a eu plusieurs solutions. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, chers auditeurs, l'application Élysée. Alors, elle a fait un peu parler d'elle il y a quelques mois. Alors, c'est une application qui est disponible sur smartphone, iPhone, Android, etc., qui est donc une application téléphonique. Et en fait, le principe, il est assez simple. Alors, ça se rapproche beaucoup avec l'application de rencontre Tinder, qui est aussi assez populaire, si vous connaissez le principe. Vous avez différentes propositions de candidats qui sont totalement anonymes. Donc, vous ne savez pas si la déclaration vient d'un l'un ou d'un l'autre. Et puis, à l'aide de votre doigt, vous glissez à gauche ou à droite en fonction de si vous êtes d'accord ou pas. Et donc, ça permet, en tout cas, l'application revendique une certaine utilité, vous allez pouvoir connaître vraiment votre bord politique, puisque c'est anonyme, donc vous n'allez plus voter, enfin, vous n'allez plus être d'accord ou pas en fonction du candidat, parce qu'il peut y avoir une influence. On a tous une opinion plus ou moins vraie d'un candidat, plus ou moins orientée, donc forcément, certaines de ces propositions peuvent être sujet à des biais, et du coup, si c'est anonyme, on va vraiment voter pour le programme. En tout cas, c'est ce que l'application espère permettre de faire. Ça pose plusieurs questions. Alors, déjà en principe, est-ce que c'est quelque chose qui peut permettre notamment à des plus dépolitisés de s'y mettre? Parce que bon, c'est assez ludique de swiper à gauche, à droite, puis ensuite on se rend compte, je suis d'accord avec tel pourcentage de tel programme. Parfois ça fait des surprises, voilà, sachant qu'en plus, je ne l'ai pas dit, mais évidemment les propositions sont très diverses, ça parle d'économie, de société, d'écologie, de géopolitique, etc., etc. Enfin, en bref, tout ce dont on peut entendre parler ailleurs. Et du coup, on peut se dire, est-ce que ça va permettre, notamment aux plus jeunes, qui sont souvent en plus des grands abstentionnistes, est-ce qu'ils vont à l'aide de ça se forger une meilleure opinion et peut-être passer le cap? Je ne sais pas, à voir. Malheureusement, je pose quand même une question, c'est que récemment, Élysée a été, entre guillemets, sujet à une faille, parce que voilà, toutes les applications ont des failles et aucun système informatique est 100% sûr. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement que les données récoltées par Élysée, puisque en fait, du coup, à force d'utiliser l'application, Élysée va récolter des informations, très précises sur votre orientation politique. Et forcément, ces informations sont extrêmement prisées, tout simplement par ce qu'on appelle des data brokers. Alors, c'est des courtisiers de la donnée en français. Ce sont tout simplement des personnes qui revendent, qui achètent des données utilisateurs. Voilà, et tout simplement pour faire des bénéfices. Alors, énormément d'entreprises sont intéressées par vos données personnelles, je pense que vous le savez, mais en tout cas Google par exemple fait partie des plus grands collecteurs de données et ils font beaucoup de bénéfices grâce à ça. C'est pour ça d'ailleurs que leurs services sont gratuits, YouTube, Google, voilà, et beaucoup de choses fonctionnent avec ces services, tout le monde les utilise, ou en tout cas une grande partie de la population, donc forcément ils ont une connaissance très élevée enfin ils ont, comment dire, une centralisation de beaucoup de données. Et du coup, l'application Élysée va vraiment vous donner un portrait très, très, très précis de votre personne sur vos orientations politiques. Donc, si c'est piraté, que c'est encore plus récolté par des entreprises, vous savez très bien ce qu'elles peuvent en faire, elles peuvent vraiment vous influencer. Voilà. Et encore, là, on est complètement sur le contraire que vous voulez faire l'application, c'est-à-dire vous éclairer, vous permettre de mieux vous orienter, etc. Au final, ces informations vont être vendues à des grands groupes, et ces grands groupes vont vouloir vous influencer. Donc finalement, est-ce que c'est pas le renard qui se mord la queue ? C'est assez quand même... ironique de faire ça, enfin, et du coup c'est pour ça qu'il faudrait avoir un recul, alors que nous, quand je dis nous, c'est généralement la génération qui a grandi avec Internet, donc années 90, début des années 2000, on est censé être un petit peu plus, on connaît un peu plus, on connaît les enjeux, voilà, on peut penser que les personnes plus âgées n'ont même pas connaissance que leurs données sont achetées et revendues, mais malgré tout, ça n'a pas empêché, même moi, je prends mon cas personnel, que j'ai installé l'application et que je n'ai même pas fait attention de qu'est-ce que mes données pouvaient, à quoi pouvaient-elles servir, et même en cas de problème, justement, et c'est ce qui s'est passé, en cas de problème de faille, à quoi pourraient servir mes données. Et ça fait partie du coup des conditions qu'on ne lit jamais. Donc voilà, je vais terminer sur ça. Donc n'hésitez pas à aller voir Élysée si ça vous intéresse, et puis je vais laisser la parole à Thibaut.
Vous venez donc d'entendre Quentin sur notamment le sujet d'Élysée, et on se retrouve dans quelques instants pour parler de la suite. Bonjour de nouveau, chers auditeurs. On est toujours sur Graphite 94.9 dans l'émission Les Échos de l'innovation. On vient de terminer le premier point de notre émission. Donc, ce qu'on en retient, c'est qu'on est aujourd'hui submergé par les informations. On a accès à toujours plus de données et dans des quantités qui nous dépassent totalement. Mais on a vu qu'en fait, on est rarement mieux informés. Et dans ce contexte de trop plein d'informations, voire même de désinformation, c'est un contexte qui est très propice à la baisse de la confiance et qui mène peu à peu à se tourner vers l'abstention lors des élections. À ce propos, en fait, on constate déjà depuis de nombreuses années que les taux d'abstention aux différentes élections dans les différents pays européens sont en forte hausse, et peu importe les élections. Bon, après, il y a quand même des élections, entre guillemets, où l'enjeu a une telle importance et l'incertitude sur l'issue du scrutin est telle que les chiffres sont en général faibles d'abstention. Je pense notamment aux élections présidentielles. Mais au contraire, il y a des élections comme les élections régionales, les élections départementales qui ont lieu, par exemple, en France en 2021, l'an dernier, qui ont enregistré des taux d'abstention assez records. Si on veut s'intéresser un peu d'ailleurs aux causes de cette abstention, des études réalisées auprès des électeurs rapportent diverses raisons que je vais évoquer très brièvement. Donc, il y a notamment le fait que les électeurs estiment que les candidats font des promesses qu'ils ne tiendront pas. Donc ça, c'est la cause majoritaire. Puis ensuite, on a aussi la sensation que notre vote ne va pas influer sur le résultat. Et ce serait presque un vote inutile, finalement. Une troisième cause, ça peut être tout simplement qu'aucun candidat, aucun parti, aucun programme politique n'est vraiment en accord avec nos valeurs et ce qu'on pense, et on préfère tout simplement ne pas aller voter. Puis après aussi, une dernière cause, ça peut tout simplement être le fait de vouloir exprimer vraiment un choix politique. Ce choix politique de ne pas aller voter parce qu'on est insatisfait à l'égard de la politique. On a envie d'exprimer une certaine forme de contestation. Je vais maintenant donc laisser la parole à Mohamed qui va revenir un peu sur l'abstention et peut-être... le fait d'introduire le vote électronique qui pourrait peut-être permettre d'envisager une baisse de l'abstention, en fait, tout simplement.
Merci Thibaut. Alors moi, je vais revenir sur l'abstention et nous pensons que le vote électronique pourrait être une solution à ce problème. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que le vote électronique ? C'est un type de vote qui se fait non pas dans un bureau de vote, comme on le connaît maintenant en France, mais plutôt devant une urne électronique. Donc il n'y a pas d'assesseur, le vote est fait en autonomie devant l'urne électronique. Néanmoins, ce type de scrutin n'est pas à confondre avec un vote par correspondante électronique ou encore appelé vote Internet, comme c'est actuellement le cas pour les citoyens français expatriés qui doivent voter à distance. Maintenant, pourquoi nous pensons que ce fonctionnement pourrait être une des solutions pour lutter contre l'abstention ? Premièrement, certaines personnes ne vont pas voter, car dans certaines villes, les bureaux de vote sont extrêmement éloignés et il faut parfois compter un long temps de trajet pour pouvoir aller voter. Une installation d'urne électronique un peu partout en France pourrait être une solution à cette contrainte. Deuxièmement, je suppose que d'autres personnes ne vont pas voter car il y a du temps d'attente en bureau de vote traditionnel. Attente justifiée par une vérification méticuleuse par les assesseurs des différentes pièces d'identité à présenter pour pouvoir voter. Des personnes peu intéressées par le vote pourraient être totalement découragées. Un peu suffit pour les faire renoncer. L'installation des bornes de vote électronique réduirait donc le temps d'attente car il y aurait plus de lieux pour voter et ainsi de suite. Cependant, le vote électronique pourrait aussi causer des problèmes quant à la fiabilité de ceci et à des potentiels problèmes liés à la fraude informatique comme va aborder mon collègue suivant.
Donc, on vient d'entendre Mohamed à propos de l'abstention et de l'introduction du vote électronique, qui pourrait éventuellement être une solution dans le sens où les électeurs ne seraient pas forcément obligés de se déplacer. Avec un vote à distance, ils auraient la possibilité de voter n'importe quand, depuis n'importe où. Et donc, ça permettrait à des personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer de tout simplement voter. Donc, on dirait qu'il y aurait déjà une meilleure représentativité. Et puis aussi, il y aurait aussi le fait que les gens n'auraient plus, entre guillemets, cette réticence au fait d'aller voter parce que c'est un jour précis dans l'année qui leur impose de se rendre parfois à des bureaux de vote qui sont à une grande distance de leur domicile ou une grande distance de l'endroit où ils sont parce qu'ils sont par exemple partis en vacances. Et donc ça représente parfois une contrainte, surtout quand on se dit aujourd'hui que le prix de l'essence est en forte hausse. Donc on va maintenant faire une petite pause et se retrouver dans quelques instants pour entamer la troisième partie de notre émission qui va vraiment s'interroger sur les tenants et aboutissants du vote électronique. Rebonjour chers auditeurs, vous êtes toujours sur Graphite 94.9 dans l'émission Les Échos de l'innovation. On vient de parler dans un premier temps de la forge de l'opinion dans une démocratie de plus en plus numérique où on est de plus en plus submergé par l'information. On a ensuite dérivé un peu sur la question de l'abstention, justement, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait plus d'informations, mais qu'on n'était pas forcément mieux informé. Et donc, on pouvait se mettre à douter et tomber dans l'abstention. une solution qui peut être envisagée pour l'abstention par certaines personnes et par certains chercheurs notamment, c'est d'introduire le vote électronique. Là, on parle du vote à distance. Et c'est donc la question qu'on va aborder dans cette troisième partie. Je vais donc laisser la parole à Daniel.
Merci Thibault. Donc, pour commencer, je ne sais pas combien de pays utilisent un document d'urne électronique, mais au Brésil, mon pays, depuis 2012, 100% des votes se font par voie électronique. Et autre point pertinent, je pense, qu'au Brésil, le vote est obligatoire et malheureusement, même avec cette situation là-bas, il est normal de voir des taux d'abstention élevés. Il est intéressant de mentionner que le système de vote basé sur les urnes électroniques au Brésil a été créé de manière nationale, avec des ressources techniques et scientifiques propres, et conçu selon les besoins de la nation. Parallèlement au vote électronique, un registre unique et automatisé des électeurs a également été créé, et au cours de deux années, d'autres ajustements technologiques ont été créés, tels que des portails d'accès aux données électorales et des outils techniques de sécurité pour les machines à voter. Cependant, de mon point de vue de lecteur, dans un pays où le vote électronique déjà existe et ponctuellement encore, où 100% de l'élection, tant présidentielle que pour d'autres fonctions politiques, se déroulent de cette manière, le point principal des urnes électroniques n'est pas de réduire l'abstention, car le déplacement de lecture est le même, qu'il était une urne électronique ou non. Les points principaux pour la réélection brésilienne, sont la recherche d'une plus grande fiabilité dans les votes, et minimisant la fraude ou toute possibilité d'altération de données, et aussi pour permettre à tous les citoyens d'exercer leur citoyenneté à partir du vote. En tenant compte des dimensions continentales du Brésil, beaucoup d'électeurs vivent dans des endroits éloignés, ce qui a rendu très difficile pour eux de voter. Même avec un système de vote obligatoire, c'est-à-dire que si on devait exercer sa citoyenneté, en votant pendant la période électorale, les taux d'abstention sont d'environ 20%. Lors des dernières élections présidentielles de 2018, ces chiffres étaient de 20,3%, tandis qu'en 2020, lors de l'élection de Marie et des députés, il était de près de 30%. Tout ceci m'amène à penser que l'abstention des électeurs dans les urnes tend à des explications anthropologiques beaucoup plus complexes et pourtant de nombreux chercheurs considérant cette réaction sociale comme une façon d'exprimer la citoyenneté. Il y a en fait plusieurs raisons qui poussent les électeurs à ne pas voter en suivant cette idée comme la insatisfaction de la politique nationale et l'incrédibilité des candidats évoqués juste avant. Par exemple, le manque d'instruction, l'information douteuse et le peu d'intérêt pour la recherche de la vérité sont autres situations possibles aussi. Pour conclure mon discours, je voudrais résumer mon point de vue de la manière suivante. Une démocratie est d'abord constituée par les citoyens et les politiciens doivent ensuite être gérés pour la volonté du peuple. Malheureusement, avec la négation de ces droits, de plus en plus de politiciens sont élus par des groupes qui ne correspondent pas toujours à ce que la population souhaite réellement. Par conséquent, nous vivons dans une rue à double sens. Nous devons repenser la façon dont la politique est faite et à partir de là, réfléchir la façon dont la technologie pourrait aider à rendre les choses plus claires et plus explicatives pour la société qui compose la nation. Ainsi, je ne pense pas que le vote à travers des urnes électroniques soit la solution à ce problème avec la réalité de mon pays, mais plutôt une reconstruction de l'idée de la politique par la population qui se fait avec l'information, l'accessibilité et le réapprentissage du comportement de la société. Je continue à penser que le principal problème de l'abstention est précisément le manque de confiance de la société dans les hommes politiques d'aujourd'hui et les propres politiciens. Merci.
Donc on vient d'entendre Daniel, donc Daniel qui est un des étudiants avec nous et en fait qui vient du Brésil. Donc c'est pour ça qu'il nous a un peu parlé de son expérience, parce qu'au Brésil, effectivement, il y a un vote électronique qui est mis en place. Mais attention, je précise bien que c'est un vote électronique, pas cette fois-ci un vote à distance, mais un vote sur des urnes en fait électroniques. Donc là, on vient d'entendre un peu ce dont il parlait. Et l'application du vote électronique dans le cas du Brésil, un peu les dérives que ça peut amener. Et donc il a parlé aussi de son avis. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un peu Clément et Simon sur la question du vote électronique, mais au sens du vote à distance, donc vote par Internet. Et donc ils vont un peu développer le fait que ce soit mis en place. Parce que je voudrais aussi rappeler encore à vous, chers auditeurs, que le vote électronique au sens du vote à distance, c'est quelque chose qui n'existe encore pas dans le monde, ou très peu. Y a seulement le cas de l'Estonie qui peut être cité. L'Estonie, donc pays du nord-est de l'Europe, qui a totalement informatisé en fait son système de vote. Et ça, c'est depuis les années 2010, et donc qui réalise toutes ces élections avec des votes qui sont vraiment pour les utilisateurs depuis un ordinateur ou voire même plus récemment leur smartphone. Donc je vais m'arrêter sur ce point. Je vous conseille vivement de vous renseigner sur l'Estonie si ça vous intéresse et si vous vous interrogez justement sur le vote électronique. Mais sachez qu'en France, pour l'instant, on n'est pas encore prêt à ce que ça arrive, bien qu'il y avait eu, maintenant quelques mois, en novembre, entre guillemets, une fausse information qui avait circulé, qui disait que Gabriel Attal souhaitait mettre en place le vote électronique, notamment pour les élections présidentielles de 2022. Mais il a été vraiment avéré très rapidement que c'était une fausse information et que, évidemment, ça ne pouvait pas être mis en place. Je laisse tout de suite la parole à Clément et Simon pour nous parler justement du vote électronique.
Effectivement, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à développer et à utiliser le vote en ligne. La première, ça va être les mobilités. Parce qu'aujourd'hui, grâce à toutes les technologies dans le domaine du transport, mais également les technologies numériques, il y a beaucoup plus de mobilité dans le territoire national, mais également de mobilité à l'international. Et le développement de ces technologies, notamment celles du numérique, elles vont nous permettre de rester connectés avec notre famille, par exemple, notre travail et ou notre travail, sans forcément être présent physiquement. Et ça s'est très bien vu pendant le confinement, hein, où on a pu continuer à travailler depuis chez soi. Donc grâce aux technologies du numérique, et on a vu par exemple durant cette période le développement croissant des visioconférences qui existaient déjà avant, mais qui n'étaient pas aussi répandues qu'aujourd'hui. Et donc, avec toutes ces technologies, on va en quelque sorte se libérer de la contrainte physique. Et le numérique va nous permettre aujourd'hui de faire plus en plus de choses. On peut faire nos courses, on peut travailler, on peut communiquer, on peut se divertir, on peut se cultiver, on peut faire plein de choses. Alors que d'un autre côté, le vote, lui, reste matériel. On est obligé de se déplacer dans les bureaux. Et ça peut poser un problème par rapport à la situation sociale actuelle. On peut par exemple aussi prendre l'exemple des vacances qui auront lieu dans 2 semaines pour la zone B. Et c'est exactement le début des vacances correspond à la période électorale. Donc ça va poser un problème pour certaines familles qui se disent bon, où on part en vacances, où on reste là pour voter. Et il y a aussi un problème avec les étudiants, par exemple. Si je prends mon exemple, moi je suis à l'UTC depuis seulement 1 an, mais après l'année prochaine je dois partir en stage et après un semestre à l'étranger. Donc ça veut dire que s'il y aura de nouvelles périodes, de nouvelles élections durant ces périodes, en fait il faut à chaque fois faire des démarches pour changer son bureau de vote et ça peut être un peu lourd, quoi. Le vote en ligne, en fait, du coup, il va être une source de simplicité. On peut voter où on veut. Et quand on veut. Je dis quand on veut parce que si on prend l'exemple de l'Estonie, qui n'a pas entièrement digitalisé son système de vote, comme l'a dit Thibault, ils ont par contre entièrement digitalisé leurs services publics. Aujourd'hui, en Estonie, il y a 99% des services publics qui sont disponibles en ligne, et donc 24-24, 7 jours sur 7. En Estonie, du coup, ils ont instauré le vote en ligne et ils ont augmenté la durée pour pouvoir voter. C'est-à-dire qu'on aura toujours les élections physiques, mais on pourra aussi voter en ligne. Et je crois que c'est sur 4 jours, il me semble, et on peut voter et aussi modifier son vote, sauf le dernier jour.
Donc maintenant, moi, je vais vous parler un peu plus des problèmes que ce vote électronique peut engendrer. Donc comme Clément vient de nous le dire, il y a de nombreux avantages, notamment en termes de mobilité, ce qu'on a vu dans un premier temps. Du coup, voilà, comme on l'a déjà dit, le vote électronique, il faut bien faire attention il peut y avoir deux types de vote électronique. Le vote électronique via son smartphone, mais aussi le vote électronique via des machines à voter donc dans les lieux de vote. Et donc c'est bien deux technologies à différencier, qui les deux utilisent l'aspect numérique pour faciliter le recomptage, etc. Mais ce sont vraiment des technologies très différentes. Et donc, comme on l'a dit, c'est la technologie du vote électronique en ligne, donc à distance, peut permettre l'accès plus rapide, enfin de ne pas avoir à se déplacer pour aller voter. Cependant, ça présente aussi des désavantages. Notamment, une partie de la population a toujours peu ou pas accès aux nouvelles technologies et à Internet. On pense en particulier aux personnes les plus âgées qui nous entourent. Et donc ces personnes, il faut qu'elles soient accompagnées dans cette transition. Et on se rend compte de la nécessité de garder un vote physique ou en présentiel également. Pour ces personnes, il y a souvent un fort manque de culture numérique ou aussi la peur de l'insécurité de ce système. On pense aussi en France au fait qu'il reste des zones géographiques appelées les zones blanches, donc des zones sans connexion Internet. Même si ces zones sont de plus en plus limitées et restreintes, une partie de la population, aussi petite soit-elle, continue d'habiter dans ces zones. Et du coup, le vote entièrement numérisé sera un problème pour ces zones. Ça ferait un peu des zones blanches qui pourraient être aussi des zones sans démocratie. On voit bien que ça reste malgré tout des cas un peu extrêmes, car aujourd'hui, on a 95% de la population française qui a accès à Internet, forcément avec des inégalités fortes d'utilisation, en particulier entre les générations. Et du coup, les élections des représentants, le vote peut aussi permettre aux Français habitant à l'étranger d'élire leurs représentants, le vote à distance. Ça a été déjà utilisé la première fois en 2003 pour permettre aux électeurs français vivant aux États-Unis d'élire leurs représentants à l'Assemblée des Français de l'étranger. Du coup, c'est une assemblée qui regroupe qui représente les Français qui habitent à l'étranger. Et ça avait été aussi le cas lors des élections législatives de 2012 où les Français habitant à l'étranger, donc les expatriés, avaient pu voter via Internet.
Ouais, c'est vrai qu'effectivement, tout le monde n'a pas accès à Internet. Et même en ayant un accès à Internet, je veux dire, on n'a pas forcément la même dextérité que les jeunes générations ou la même confiance dans l'utilisation d'Internet. C'est pourquoi il ne faut effectivement pas bannir le vote via les urnes, mais instaurer plutôt un modèle hybride, comme on pourrait retrouver en Estonie. Bon, on va souvent parler de l'Estonie, mais parce que c'est un des pays pionniers dans le vote en ligne. Et effectivement, en Estonie, on peut voter en ligne, et également via les urnes. Et si on prend par exemple l'exemple des élections législatives de 2019, donc en Estonie, on voit que 44% des votants ont voté via leur smartphone et l'application e-voting, ce qui représente quand même la moitié des votants, donc ce n'est pas négligeable. Et par rapport aux dernières élections législatives qui avaient donc eu lieu en 2009, il n'y avait que 16% des votants qui avaient utilisé le vote en ligne. Donc on voit que c'est un système qui se développe beaucoup en Estonie, mais qui est également bien accepté par la population, vu qu'on voit qu'en 10 ans, ils ont doublé le nombre de votants en ligne.
Maintenant, je voudrais revenir sur les problèmes au niveau les problèmes d'insécurité liés au vote électronique. On a vu voilà, qu'en Estonie, c'était vraiment développé, mais cependant, il y a toujours des questions qui peuvent se poser. Et le vote est confronté à une double problématique. Donc, la première problématique est d'assurer la confidentialité du vote. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est très important, notamment en démocratie, de pouvoir voter librement et sans avoir à montrer aux autres pour qui on vote, de faire un choix libre, avoir la conscience tranquille lorsqu'on vote, sans risquer d'avoir des reproches, etc. Du coup, il faut assurer pour cela la confidentialité du vote. Mais en même temps, donc, cette confidentialité elle va se faire par avoir un système qui ne permet pas de vérifier de qui provient le vote, etc. Donc un système en quelque sorte invérifiable. Mais en même temps, le fait que le système soit invérifiable va poser le problème inverse, qu'on ne puisse pas vérifier si une personne qui a voté pour un certain candidat, son choix a bien été enregistré comme il fallait. Et donc finalement, on ne peut absolument pas vérifier qui vote pour qui et si lors du vote, il n'y a pas de modification du vote. Donc ça représente vraiment un problème parce qu'aujourd'hui, à la fois, par exemple, on peut penser au code source, du coup, à comment le système de vote peut être programmé par les experts informatiques. Et on pourrait penser que ce code pourrait être partagé à tout le monde pour que tout le monde puisse vérifier comment fonctionne le système de vote, en particulier les experts informatiques. C'est ce qui avait été le cas, par exemple, pour l'application Tous Anti-Covid, lorsqu'elle a été déployée. Son code source avait été partagé pour qu'on puisse vérifier qu'est-ce que contenait véritablement cette application. Sauf que là, dans ce cas-là, c'est un peu plus complexe parce que partager ce code pourrait aussi partager aux éventuels pirates informatiques ou gouvernements étrangers des informations sur notre système de vote et du coup des informations sur comment pirater ce système. Du coup, la sécurité risque vraiment d'être un des principaux problèmes de cette démocratie numérique. Et on risque d'avoir des pirates informatiques qui tenteraient d'exploiter les vulnérabilités du système. Par exemple, il y avait une étude aux États-Unis qui avait révélé que 24% des scrutins en Virginie lors des élections aux États-Unis en 2015 avaient utilisé un système de vote qui pouvait accéder à des parties externes et du coup injecter des données dans le système de vote. Et du coup, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est très important d'avoir finalement la confiance des citoyens pour que ce processus de vote, le vote à distance électronique, puisse marcher. Et donc, comment avoir la confiance des citoyens? C'est vraiment une grande question à laquelle il n'est vraiment pas simple de répondre. Tant le système doit être à la fois opaque, mais voilà, pour gagner la confiance des citoyens, ça peut être compliqué. Et du coup, dans le cas du vote classique, la détection des fraudes peut être, entre guillemets, assez facilement réalisée. Par exemple, les bourrages d'urnes peuvent être détectés lors du dépouillement si il n'y a pas assez de personnes qui ont émargé, ou alors qu'un candidat est largement représenté dans une ville ou un bureau de vote. On peut à ce moment-là se poser des questions. Avec le vote électronique, si un pirate informatique réussissait à faire passer beaucoup de voix pour un candidat, il ne serait vraiment pas possible d'avoir cette double vérification et de vérifier si ces voix sont d'origine d'origine extérieure ou vraiment de la part des votants. Et du coup, on pourrait facilement avoir une fraude de grande ampleur sans même s'en rendre compte, car c'est extrêmement compliqué de faire la vérification de l'origine des votes. Donc ce recomptage impossible est un réel problème. Un autre type de problème pourrait être la panne, le cas de la panne de la machine. On sait que les appareils électroniques, bien qu'ils soient de plus en plus fiables, peuvent tomber tout simplement en panne ou avoir des défaillances. Et donc, si ça arrivait dans le cadre d'un processus démocratique, ça pourrait être un véritable problème. Parce que voilà, ça devrait, on devrait alors recommencer les élections pour un certain bureau de vote ou alors trouver des alternatives. Mais le problème serait vraiment important.
Néanmoins, je pense que le niveau de sécurité du vote en ligne, il va aussi dépendre de l'investissement mis dans les sites qui vont s'occuper de ces élections. Et ainsi, avec plus d'argent, il sera possible de rendre le site plus sûr et du coup moins sujet aux attaques informatiques. On peut préciser aussi que cette défiance vis-à-vis du vote électronique, quant à sa sécurité, elle peut poser question. En effet, aujourd'hui, il y a de nombreuses opérations de la vie courante qui se font en ligne, comme les demandes de papier d'identité. Aujourd'hui, tout se fait en ligne, on ne se rend plus qu'en mairie pour récupérer et vérifier les informations, mais tout ça se fait en ligne. Et surtout, tous les transferts d'argent aujourd'hui ont lieu en ligne. Et par exemple, je veux dire, souvent, quand on commande un article, on met ses codes de carte bleue sur Internet et ça ne semble pas poser de problème aux personnes. Et on peut voir qu'elles ne sont pas forcément méfiantes alors même qu'elles déposent leur code de carte bleue sur Internet. Et on n'entend également pas souvent parler de banques qui se font hacker et, où l'argent des contribuables est retiré. Donc on voit bien qu'avec de l'investissement suffisant, il est possible de garantir la sécurité informatique d'un site. Et en continuant de parler sur l'aspect financier, on peut parler du coût des élections. Et en effet, selon des chiffres qui viennent du Sénat, l'élection présidentielle de 2017 a coûté 250 millions d'euros, dont 172 millions d'euros uniquement pour l'organisation du scrutin. Donc on pourrait penser que voter en ligne, ça simplifierait les élections et on pourrait aussi faire des économies.
Il est vrai que l'argument du coût peut être un argument, mais à la fois pour les deux parties. En effet, le coût du vote électronique n'est pas encore clairement défini, mais on peut prendre l'exemple d'une ville proche de chez nous, donc Noyon, qui avait acheté 8 machines de vote électronique auprès d'une société néerlandaise pour un coût de 60 000 euros, ce qui est assez représentatif, sachant que la plupart du temps, les assesseurs donc, qui viennent organiser les élections sont des bénévoles. Du coup, voilà, le coût pourrait vraiment être aussi très important, notamment les coûts de... pour assurer la sécurité du système informatique pourrait être très élevé avec ce système.
Excusez-moi. Je voulais dire par rapport à ce que vous avez dit Clément et Simon sur la difficulté de mettre en place le vote en ligne.
Il y a plusieurs choses. C'est que tout d'abord... au niveau du coût, parce qu'en fait, vous êtes beaucoup resté sur la substance, on va dire, très pragmatique. C'est que c'est difficile parce que c'est coûteux, parce que c'est pas sécurisé, etc. Peut-être une chose, c'est qu'on a principalement parlé du fait que l'abstention pouvait se régler par le vote électronique. Ça, on a apporté un peu de nuance. Mais pour les jeunes, en tout cas, c'est surtout que c'est davantage les personnes âgées qui votent. Et que donc, un candidat qui souhaite se présenter à l'élection, il a tout intérêt à parler de sujets qui vont séduire cette part de l'électorat, puisque c'est celle qui se déplace dans les urnes. Donc en fait, si les jeunes ne votent pas, ou peu, ça peut être aussi une conséquence, c'est que peu de mesures, peu de dialogue, peu de débats sont finalement pour leurs problématiques. On a entendu plein de sujets. Hein. D'ailleurs, c'est un peu particulier cette élection, parce que l'Ukraine, la crise en Ukraine a un peu pris toute l'actualité, mais il y a finalement assez peu de choses qui sont passées sur la réalité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la précarité chez les étudiants, la difficulté de l'apprentissage, etc. Et même de l'éducation en général. Donc c'est vrai que si on portait davantage de mesures sur les jeunes, peut-être qu'ils se déplaceraient davantage aux urnes. Et surtout, pour certains, ça peut être carrément une volonté politique, puisqu'en fait, le vote blanc n'est pas reconnu dans les élections françaises. Un vote blanc, c'est quasiment comme si on ne se déplaçait pas. Donc à quoi bon, finalement, beaucoup peuvent avoir envie de vraiment voter blanc. Mais sachant qu'en France, on ne reconnaît même pas leur voix, à quoi ça servirait? Donc à ce moment-là, je pense que c'est pour ça qu'on peut expliquer quand même pas mal de pourcentages d'abstention. C'est vrai que c'est toi, Clément, qui avais dit que tu étais à l'UTC et que finalement, partir en stage, etc., ça pouvait te poser problème. C'est vrai que c'est une raison qui peut pousser une raison favorable au vote à distance. Malgré tout, je pense que ça représente quand même une certaine minorité. Si déjà la procuration, c'est-à-dire demander à quelqu'un de voter à sa place, c'est assez lourd, c'est assez difficile. Et puis il faut avoir quelqu'un de disponible, évidemment, et de confiance. Donc c'est vrai que déjà, si on réglait ce problème, ça pourrait éventuellement, pour ces cas dont tu parlais, être une solution. Malgré tout, je pense que si déjà à la racine, c'est-à-dire de base, ce que sont les élections, la campagne, si on parlait davantage aux jeunes et à leurs problématiques, peut-être qu'ils se sentiraient davantage concernés, parce que je ne pense pas qu'ils s'informent moins, je ne pense pas qu'ils sont davantage moins politisés. C'est simplement qu'il y a une réelle, je pense, cassure entre la classe politique et la population plus jeune, quoi.
Du coup, voilà, nous allons arriver à la fin de cette heure autour du numérique et dans les élections présidentielles qui approchent. Du coup, on peut en conclure qu'aujourd'hui, le numérique joue une place de plus en plus importante dans notre société en général pour effectuer de très nombreuses et diverses actions. Mais voilà, dans la démocratie dans laquelle nous vivons, nous ne pouvons toujours pas voter en ligne. Nous ne pouvons toujours pas voter en ligne, malgré de nombreuses informations de la part des politiques qui peuvent apparaître sur les réseaux sociaux. Les fake news ont par exemple de plus en plus de parts sur des sites, mais les candidats eux-mêmes sont de plus en plus importants. Donc on peut le voir aussi, l'abstention est en augmentation et est un problème qui pourrait s'avérer être un risque finalement pour notre démocratie. Et donc enfin, nous avions fini sur le fait à débattre sur le vote électronique pour savoir si c'était une alternative, pour en conclure que c'était une alternative, même si cette alternative n'est pas sans risque. Enfin, pour terminer l'émission, j'aurais d'abord aimé remercier nos deux étudiants internationaux, du coup Can et Daniel, donc qui viennent du Vietnam et du Brésil, et voilà, qui ont fait l'effort de nous parler un petit peu de leur pays et de nous présenter et de faire l'effort aussi de nous parler en français, bien que ce soit pas forcément la chose la plus simple. Et donc on espère que vous avez apprécié cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine.